Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il est des nuits où je m'absente, discrètement, secrètement. Mon image seule est présente. Elle a mon front, mes vêtements. C'est mon sosie dans cette glace, c'est mon double de cinéma. À ce reflet qui me remplace, tu jurerais que je suis là. En 1985, Léo Ferret sortait Les Loubards, un album entièrement composé à partir de textes de Jean-Roger Caussimon. Et cette même année, Caussimon s'absentait définitivement, nous laissant son double de cinéma et ce reflet que chantent encore Dominique A et Jean-Louis Murat. Deuxième volet de trois émissions de la série Profil, qu'Émile Noël consacrait en 1969 à Jean-Roger Caussimon.
Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce que la chanson peut se développer, évoluer, tenir compte de l'époque?
Je pense un peuple heureux a des chansons joyeuses et même un peu bêtes. Je pense que...
Alors on n'a pas à se plaindre.
Non, mais ça, mais c'est un autre problème maintenant. C'est un autre problème, parce que nous n'avons pas de chansons vraiment joyeuses. On n'en a pas. On n'en a pas en ce moment. On n'a pas. Même un personnage que j'aime beaucoup, comme Pierre Perret, c'est toujours teinté d'une certaine, mélancolie, d'une certaine...
Oui, c'est vrai.
Tu comprends, on n'a pas d'équivalent. Ce sont des chansons qui peuvent nous paraître un peu dépassées maintenant. Mais, par exemple, tu avais Chanson de Chevalier, quand il chantait « Mimi, là, il descend le Ménil, montant ». Tu comprends, alors ça, c'était vraiment le Titi Parisien qui fait son boulot dans la semaine, ça équivalait le samedi soir après le Turbin, l'ouvrier parisien. Mais maintenant, l'ouvrier, j'en ai pas de chanson d'ouvrier, j'en vois pas, il a pas, il se sent pas à l'aise, il sent pas des sous pour aller au music hall le samedi soir, il les a pas.
Est-ce que tu crois malgré tout que le marché, comme on le dit, n'influence pas non plus la fabrication, parce qu'on est finalement bien obligé d'utiliser ce mot-là?
Bon, je ne pense pas qu'il influence des créateurs comme Brel, comme Brassens. D'ailleurs, c'est sourd de citer des noms parce qu'il y a des gens dans les chansons qui sont très bien et tout d'un coup on se dit tiens, j'ai pas parlé de lui. Je pense pas que Nougaro soit impressionné par le marché, justement cette question de marché me chiffonne un petit peu. Même ces grands concours d'Eurovision et de choses comme ça, je ne les critique pas, mais je ne crois pas que ça puisse être une source de découverte. C'est pas ça. Ce qui est une source de découverte pour la chanson et qui fera l'épanouissement de la chanson, sont justement d'encourager des personnalités très différentes. Je citais des noms, mais quelqu'un comme Pierre Barou, comme Higelin, représente des choses actuellement dans notre chanson. Seulement, on les diffuse assez peu. Il y a une espèce de chose qui fait qu'on veut être un animateur de radio privé ou française de la RTF, veut être à la page vis-à-vis de ses copains et sortir le dernier tube. Bon, ça, je comprends, c'est un souci professionnel qui est tout à fait respectable. Mais il y a aussi des tas de gens qu'on ne passe jamais. On ne passera jamais Simone Bartel, elle ne passera jamais sur les antennes. Pourquoi ? On ne passe pas Jacqueline Dano, pourquoi ? Et pour vous citer j'en oublie énormément. Des gens qui sont bourrés de talent et qu'on ne passe pas parce qu'ils ne sont pas à la mode, c'est tout.
Sire, de grâce, écoutez-moi, je viens de sortir des galères. Je suis voleur, vous êtes roi. Agissant ensemble en bons frères, les gens de bien me font horreur. J'ai le cœur dur et l'âme vile. Je suis sans pitié, sans honneur. Ah, faites-moi sergent de ville. Bon, je me vois déjà sergent. C'est une maigre récompense. L'appétit me vient en mangeant. Allons, sire, un peu d'indulgence. Je suis hargneux comme un roquet. D'un vieux singe, j'ai la malice. En France, je voudrais Gisquet. Faites-moi préfet de police. Je suis, j'espère, mon préfet. Toute prison est trop petite. Ce métier, pourtant, n'est pas fait. Je le sens bien pour mon mérite. Je sais dévorer un budget. Je sais embrouiller en registre. Je signerai votre sujet. Sire, faites-moi ministre. Sire, oserais-je réclamer, mais écoutez-moi sans colère, le vœu que je vais exprimer pourrait bien, ma foi, vous déplaire. Je suis fourbe, avare, méchant, lâre, impitoyable, rapace. J'ai fait se pendre mon parent. Sire, cédez-moi votre place.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être à la mode ou n'être pas à la mode ?
Ah ben ça, il faut avoir des petites sœurs en Avignon, ou il faut se marier avec une chanteuse réaliste, ou faire quelque chose comme ça. Ou comme dans le sketch de Vos, il faut monter sur la tour Eiffel et dire « je vais me jeter du deuxième étage », tu comprends ? L'imprésario te prépare ça, sans doute, je ne sais pas.
Alors moi j'ai l'impression que ça suffit pas, je dis pas que c'est pas un aspect du métier.
C'est un aspect du métier, c'est-à-dire qu'il faut faire... On ne peut pas, tu ne peux pas me citer une vedette qui n'est pas parallèlement une espèce de légende ou dont on exploite la vie privée pour qu'elle reste à son plan de vedette et que les gens, en entendant la chanson, pensent à ces choses-là.
Mais est-ce que tu crois, par exemple, que les prix, il y a un certain nombre de prix en France, il y a le Grand Prix de la chanson française, le Grand Prix de Charles Cros, etc. Crois-tu que les prix qui, eux, sont consacrés alors à un artiste pour un disque, oui, donc non plus pour un seul titre, est-ce que tu crois que ce soit aussi très efficace ? Tu citais tout à l'heure Simone Bartel, par exemple. Simone Bartel a fait le Grand Prix de l'Académie du disque français.
Je crois que ça l'était jusqu'à l'invention du magnétophone. Du particulier. Je crois que ça l'était. Si la radio passait le palmarès, le public avait envie d'acheter le disque. Maintenant, nous savons bien que tous les jeunes gens, ils ont raison, puisqu'ils ont cet appareil de progrès à leur disposition. On enregistre le disque qui passe à la radio. Quand on passe à Hit Parade, une chose comme ça, nous savons qu'il y a à l'écoute certainement des milliers de jeunes qui enregistrent des disques. Et c'est pour ça qu'il était question de parler sur les disques, que les annonceurs ou les animateurs parlent sur le disque, qu'il n'est pas une version intégrale et pure de la face du disque.
Tu es, toi, finalement, plus auteur de chansons, auteur un peu compositeur, auteur-compositeur, qu'interprète, puisque finalement, depuis quelques années, tu as pratiquement cessé d'être un interprète.
Oui, oui. Moi, je vais t'avouer une chose. Je te parlais tout à l'heure des vedettes qui demandent des chansons à des gens comme moi et qui sont très difficiles et qui la prennent et puis qui ne la prennent plus et puis qui la reprennent et qui l'abandonnent. Moi, je n'ai jamais eu confiance profondément dans les choses que je chantais, moi. Je n'avais pas confiance parce que c'était une chose où je m'exprimais absolument sans trucage et je disais... Oui, mais je chante quelque chose qui est personnel. Peut-être que sur 500 personnes qui sont là dans une salle ou 1000 ou dans un cabaret, peut-être qu'il y en a à qui ces problèmes sont tout à fait étrangers. Et j'avais une espèce de timidité, de pudeur. Et je chante à moi-même. Quand j'ai envie de chanter, je ne chante jamais mes chansons. Ça n'est pas question.
Alors, tu les chantes quand, tes chansons ?
Mais je ne les chante plus. Je ne chante pas. Je les chante quand je les écris.
Ça ne te manque pas ?
Non, je crois que c'est la création qui est la plus intéressante. La plus troublante, la plus mystérieuse, c'est la création. Après, quand tu répètes une chanson, qu'elle est en place, ça devient un problème d'humeur, de l'humeur de l'interprète et de l'humeur du public qui écoute. Mais la création est une chose vraiment... que je ne suis pas arrivé à trouver la source, je ne sais pas d'où ça vient.
Tu parles création, c'est-à-dire l'invention, l'écriture, tu ne parles pas de la création-interprétation, là.
Je parle, puisque tu as bien voulu me traiter de poète tout à l'heure.
Ah, Tu es chez Segers.
Oui.
Collection pote d'aujourd'hui.
Oui, je suis avec des collègues dignes d'estime, comme Aznavour et Gainsbourg.
Ah, mais il y a aussi Saint-Jean-Perse.
Anne-Sylvestre.
Il y a aussi Saint-Jean-Perse, oui, Aragon, oui. Et Loire, Antonin Artaud.
Ah oui, mais ils sont, attention, ils sont dans la collection, tu vois, j'ai le livre là. Chez Segers, dans Poète d'aujourd'hui, tu vois ici, il y a poésie et chansons.
Oui, c'est une sous-collection.
Alors, les vrais poètes...
Il n'y a pas marqué chansons.
Il n'y a pas de chansons parce que je crois qu'on reconnaît un poète à ce qu'il ne peut pas écrire de chansons.
Ah, explique.
Ah oui. J'avais un... Pas un camarade, parce que c'est un aîné à moi, mais enfin pas de beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, un poète... léger, vivant, qui s'appelle Maurice Fombeur. Maurice Fombeur me dit un soir à Saint-Germain-des-Prés, on buvait un petit verre, du temps où j'étais jeune homme, et qui me dit, mon salaud, comment tu fais pour écrire des chansons? Et là, je lui dis, mais écoute, tu es poète, tu écris des poètes. Et il dit, j'ai un mal fou, j'y arrive pas, je peux pas écrire une chanson. Et je crois que c'est une chose qui a taquiné Cocteau, si Jean Cocteau était très, très obsédé par la chanson. Alors il a écrit des sortes de monologues pour Marianne Oswald, mais il n'a pas écrit la chanson. Aragon n'a pas écrit de chanson. On chante Aragon.
Grâce à Ferré et Ferrat.
Grâce à Madeleine Ferré. Grâce à Madeleine Ferré qui a fait un montage extraordinaire, qui a pris « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Il y a 50 strophes qui sont magnifiques tout autant. Mais tu ne peux pas faire... Tu peux faire une chanson avec, mais il faut que tu aies le génie de la construction et du collage. C'est du collage.
Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, on venait s'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par ma fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte des civils. Remets du rime et la tessile, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril, à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur,
un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suive?
Prévert, qui a fait quand même des succès dans la chanson, il est poète ou chansonnier?
Alors c'est un grand poète, c'est un grand poète. Ses chansons sont très particulières. Il est venu en un temps où il avait la notoriété qui lui permettait de trouver des interprètes. Moi, j'ai entendu siffler Prévert à l'ABC, chanté par Agnès Capri. Et j'ai dit Agnès Capri, je l'ai vu démarrer son tour de chant sans annoncer chanson de Jacques Prévert. Elle n'a pas annoncé, le public n'a pas tenu, le public a décroché.
Alors finalement, Prévert est peut-être le seul poète à avoir su écrire des chansons, particulières certes, mais oui, bon, il y en a quand même quelques autres.
Ces chansons sont des récitatifs, si tu veux bien.
Oui, c'est vrai.
Ce sont des poèmes en vers libre, sauf une, que je trouve magnifique, que Piaf n'a jamais chantée en scène. Les douaniers du désespoir peuvent toujours fouiller mes valises.
Oui.
Alors si tu le trouves dans la discothèque, c'est la musique de Crolin. C'est merveilleux, c'est une chose, c'est une très belle chanson. C'est une chanson, une vraie.
C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix. Voix d'aujourd'hui ou d'autres fois, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, merveillées, voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf. C'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un moine mort de froid sur le pavé de la rue de la joie. Et toujours, toujours quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi. Toujours, toujours encore vivante, sa pauvre voix tremble pour moi. Si je disais tout ce qu'il chante, tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, j'en dirais tout et pas assez, et tout ça je veux l'oublier. D'autres voix chantent un vieux refrain, c'est leur souvenir, c'est plus le mien. Je n'ai plus qu'un seul cri du cœur, j'aime pas le malheur, j'aime pas le malheur. Et le malheur me le rend bien, mais je le connais, il me fait plus peur. Il dit qu'on est mariés ensemble, même si c'est vrai, je n'en crois rien. Sans pitié, j'écrase mes larmes, je leur fais pas de publicité. Si on tirait le signal d'alarme pour des chagrins particuliers, jamais les trains ne pourraient rouler. Et je regarde le paysage, si par hasard il est trop laid, j'attends qu'il se refasse une beauté. Et les douaniers du désespoir peuvent bien éventrer mes bagages, me palpérer, me questionner, j'ai jamais rien à déclarer. L'amour comme moi part en voyage, un jour je le rencontrerai, à peine j'aurai vu son visage, tout de suite je le reconnaîtrai.
Alors toi, tu n'es pas poète, tu n'es pas un poète, voilà. Tu n'es pas un poète, mais tu es poète.
C'est-à-dire, sans être pédant, j'ai lu ça dans Le Monde à propos de Guillaume Apollinaire, je crois, attendant Le Monde sous la signature de Jean-Marie Dunoyer, à propos de Lettres à Loup d'Apollinaire, j'ai vu que poète, je l'avais oublié parce que j'avais perdu mon grec, que poète, ça veut dire créateur en grec, et la poésie, c'est la création. Bon, alors je crée un petit truc, alors je suis un petit poète.
Comment, alors justement, puisque les poètes ont tant de mal à écrire des chansons et que toi tu écris des chansons, et qui en général, si elles ne font pas l'unanimité, en tout cas, recueillent pas mal de suffrages, comment tu fabriques une chanson? Parce que je crois que fabriquer une chanson pour toi, c'est pas du tout pris en mauvaise part. Tu fabriques ta chanson.
Ben, oui,
tu m'as dit un jour, moi je travaille des chansons comme un bûcheron.
Oui, oui. Et puis je regrette de ne pas avoir la scie et la hache et le bois, parce que quand on a une strophe de 8 vers et qu'on a quelque chose à dire dans cette strophe, qu'on ne veut pas en rajouter une quatrième, ça devient, ça tient du mot croisé, c'est l'enfer, c'est quelque chose, c'est infernal. Et on se dit, oh, ce que je voudrais être fabricant de tabouret, au moins je saurais comment ça se fait. J'ai un trou à faire là, l'emboîter là-dessus, et ça, il serait fait, mon tabouret. Donc, ma chanson, elle est parfaite tant que je ne suis pas sorti de l'impasse.
Alors,
ben, comment je fais c'est un peu... C'est un peu intime, ça. C'est une chose... Bon, ben, je me lève, je travaille de la nuit. Je travaille, je me lève, enfin, à l'aurore, à 3h du matin. Je viens dans cette cuisine où nous sommes. Alors, je me fais une casserole de thé. Et puis, je prends ma guitare, puis je fais les accords. Puis, ça vient ou ça vient pas, quoi. C'est des choses... Ce que je vais faire, par exemple, on va prendre le petit livre qui est là. Veux-tu que je te dise un petit poème qui s'appelle Ma mère. Je vais te dire comment ça se fait, une chanson. On ne sait pas. Alors on prend la guitare, ça fait un bruit épouvantable.
C'est la table.
Oui. Ben, il ne faut pas être musicien, ce n'est pas la peine d'être musicien, je ne pense pas. Il suffit d'avoir deux accords. Les matins où le jour se lève avec mauvaise volonté, lorsque je m'entonne du thé pour me désengluer d'un rêve, par ces matins de bouche amère où le suicide a des attraits, sans que j'en puisse voir les traits, auprès de moi se tient ma mère. Elle est venue du cimetière où l'an 1936, après un bref déprofondis, on l'a couchée dessous la pierre. Moi qui la croyais feuille morte, l'humus d'où jaillit le printemps, voilà qu'à mes 48 ans, elle a bien su trouver ma porte. Elle me regarde en silence, sans avoir contour ni linceul. Je fais bien semblant d'être seul, mais je me heurte à sa présence. Je ne suis plus cet enfant sage qu'elle avait nourri de son sein. Pourquoi vient-elle, en quel dessein, et pour me livrer quel message? Dis-moi, viens-tu chercher mon âme ou simplement la surveiller? Mes enfants vont se réveiller et je dois réveiller ma femme. Va-t'en, maman, le jour va poindre, un jour de plus, un jour de moins. Va, je te le dis sans témoin, je me prépare à te rejoindre. Alors, une fois que tu as écrit ça sur ta feuille blanche, comme tu n'as pas de musique, tu demandes à un copain qui a du talent, comme Eric Robrecht, de le mettre en musique, ce qu'il a fait merveilleusement.
Oui, mais ça, ce que tu viens de nous dire là, et de nous fredonner, c'est un texte déjà abouti. Est-ce que c'était un premier jet? Non, je suppose que ça n'arrive pas forcément.
Non, celui-là est venu assez vite. Celui-là est venu assez vite. C'est... Comme ça, je ne peux pas te dire... C'est très délicat, tu sais, parce que... Je vais te dire un petit secret, parce que... C'est... J'ai des chansons... Il y a la chanson inspirée, la chanson fabriquée. Donc... La chanson inspirée, c'est celle qui, même un petit peu gauche, même maladroite, même portera parce qu'elle est sincère, parce que c'est une chose qui vient du cœur. On ne sait pas d'où ça vient et on a envie de dire merci, mais on ne sait pas à qui. Et c'est pas à soi. On ne sait pas. Moi, je crois pas au bon Dieu. Alors, je peux pas te dire c'est un truc divin qui m'arrive. Mais je crois quand on a écrit un petit poème comme ça. On peut dire merci à quelqu'un, je sais pas, ou à la Providence, ou voilà.
Ça, c'est ce que tu appelles la chanson. Et alors, la chanson fabriquée, c'est quoi?
Oh, la chanson fabriquée, c'est beaucoup plus difficile à faire.
Et tu en fais aussi. Tu es de temps en temps inspiré, de temps en temps fabricant.
J'en ai très peu. Oui. J'en ai très peu, non, parce que j'y renonce. J'en ai écrit une récemment sur les comédiens, elle ne me plaît pas, elle est fabriquée, je sens qu'elle est fabriquée, j'ai pas pleuré pour l'écrire. Pas pleuré en écrivant, alors c'est un... Non, mais je le dis très simplement, c'est pas... C'est, je le sais, il faut que ça soit...
Mais est-ce qu'il y a un vrai fond de mélancolie derrière tout ça?
Moi, j'ai une nature mélancolique. Alors, forcément, j'écris des chansons mélancoliques. Si tu écoutes une chanson comme Les Camions, évidemment, c'est très, très, très intime, c'est personnel. C'est pas une bonne chanson pour le public. Les Camions, c'est l'histoire d'un gars qui voit passer... un dimanche matin où le très froid, la rue est déserte, ça sent le gel, il entend des bruits sourds, ce sont des camions qui vont défiler devant lui, qui portent tous les costumes qu'il a portés, tous les morceaux de viande qu'il a mangé, toutes les boissons, il y a un foudre qui contient toutes les boissons qu'il a bues. Et le dernier des camions, c'est toutes les femmes qu'il a aimées ou pas aimées, mais enfin avec qui il a fait l'amour. Et c'est fini, ça s'en va, ça descend comme au souterrain du boulevard Pershing, et lui descend, il suit, on ne l'a jamais revu. Ça s'appelle Les Camions, et c'est Philippe Clay qui le chante.
Un dimanche d'hiver, j'ouvrirai ma fenêtre, Paris serait désert, ma rue serait désert. Ça sentirait le gel, et dans le petit jour, il viendrait du lointain comme un bruit de tambour. Et je verrai surgir toute une caravane de poids lourds de diesel portant mon monogramme. Sur le premier camion, dans la bise qui cingle, je les reconnaîtrai, mes nippes et mes fringues. Ma première chemise, celle dont on se fout, uniforme et costume et par-dessus le tout. Le tas de par-dessus où j'ai sué ma vie. Et mon premier smoking et mon dernier habit. Le deuxième camion trimballerait les viandes dont je me suis nourri. Tous ces morceaux qui pendent sont des bœufs qui meuglaient au cœur des abattoirs, ces agneaux qui pleuraient devant les égorgeoirs. Et même le curé, quand il a fait la quête, aime bien lui aussi manger de la blanquette. Le troisième camion serait immense foudre, le vin fou que j'ai bu, qui met le feu aux poudres. C'est la bière et le gin et c'est n'importe quoi qui vous berce le spleen, qui fait que l'on est soi, que l'on oublie un temps sa peine originelle. Et que noir on est blanc comme neige éternelle. Le dernier des camions serait camion de charme, où serait à l'étroit les femelles en larmes, celles qui m'ont aimé, mais les adets catins, et je verrai briller dans le froid du matin les yeux de la danoise et de la japonaise, en éclair de turquoise et en lueur de braise. Alors je descendrai du pied en pyjama, et sans que l'on me voie, je suivrai le convoi. Ma rue s'enfoncerait en un noir souterrain, d'où l'on ne ressort pas et qui ne mène à rien. Deux ou trois jours après, vous liriez mon père part. Ce dimanche serait le jour de mon départ.
Ce qui devient difficile pour les animateurs de radio, c'est de dire, allez, youpi, la gaieté, c'est dimanche matin ou c'est samedi après-midi, je vais vous faire entendre les camions. Alors, ça leur fait le coup de buis, les gens sont complètement... C'est ce qui est arrivé avec une très belle chanson, avec une très belle chanson de Léo Ferré qui s'appelle La Mélancolie. Rien que le titre, elle est condamnée. Le joyeux animateur ne va pas passer la mélancolie de Léo Ferré, où il y a des passages qui sont absolument de pur génie.
C'est vrai. Ouais. Enfin, je connais de Jean-Roger Cossimon un certain nombre de chansons qui sont amusantes. Elles ne sont pas sans une petite teinte de, enfin, je sais pas, de mélancolie ou d'humour. Mais bon, je pense à... D'abord, il y avait Dix Marins, c'est pas une chanson triste. Bien sûr, ça finit très mal, mais c'est pas une chanson
oui,
triste.
Oui, oui, moi, je ne les vois pas. D'ailleurs, je ne vois pas.
L'illusionniste, c'est une chanson marrante.
Oui, il y en a quelques-unes comme ça.
Lui qui dormait toute l'année assis près d'une cheminée dans un grand fauteuil Louis XIX. Monsieur le baron s'est trouvé veuve. Monsieur le baron est mon voisin. Il a un laquais toulousain qui m'a dit
y a rien de neuf
depuis que monsieur le baron est veuve. À une heure, il a fait la sieste après un déjeuner modeste.
Il a mangé un kilo de bœuf.
C'est douloureux quand on est veuf. Il a mis car c'est attristant de porter le deuil tout le temps.
Un costume vert
en drap d'Elbeuf.
C'est douloureux quand on est veuf.
Il a essuyé ses besicles, il est monté sur son tricycle. Il y a un moteur qui fait teuf teuf.
C'est douloureux quand on est veuf.
Il est allé jusqu'à la ville où il retrouve,
paraît-il,
une danseuse
de 5 à 9.
C'est douloureux quand on est veuf.
Le soir à table, je le force à prendre du vin, ça donne des forces.
Il adore le château neuf.
C'est douloureux quand on est veuf.
Et dans sa chambre bien chauffée, il tombe dans les bras de Morphée, monsieur le baron,
rond comme un œuf.
C'est douloureux quand on est veuf. Et pour oublier sa malchance, le jour suivant il recommence.
Le kilo de bœuf, le drap d'Elbeuf, teuf teuf, 5 à 9, château neuf.
Mais en dépit des apparences,
des racontards, des médisances,
vous le voyez,
y a rien de neuf.
Depuis que monsieur le baron est veuf, prou, 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 prou.
Le deuxième volet de l'émission Profil dans laquelle Émile Noël recevait Jean-Roger Cossimon a été diffusé pour la première fois le 9 février 1970. Une réalisation de Claude Mourté.